Mes amis, nous allons nous présenter devant le Seigneur. On va se présenter d'abord, chacun content de se retrouver pour une nouvelle étape. Voilà, on va parler de marche aujourd'hui. La vie est une course. Il faut aller vite. On a l'impression que ça bouscule, ça nous bouscule. Mais il n'y a rien à faire. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher. Et tout cela, ça se fait dans la marche. Nous allons ensemble nous lever à notre place pour prier le Seigneur. Parce que cette méditation, ce n'est pas une conférence sur comment marcher sans se fatiguer, mais c'est surtout de bien comprendre que le chemin de la vie, un chemin, il rejoint le chemin de Jésus. Ou plutôt, celui du Christ nous rejoint. C'est comme ça que ça se passe. Le Christ nous rejoint. Prions le Seigneur. Nous voulons apprendre à vivre en écoutant tes paroles. Car de nous-mêmes, nous ne savons pas où aller, ce qu'il faut croire ou ne pas croire, ce qu'il faut choisir. Nous avons besoin d'être guidés dans tout ce que nous vivons. Nous avons besoin d'un modèle, d'une parole claire qui résonne bien dans nos esprits fatigués et chargés. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire dans la voie droite, le chemin droit, le chemin de la vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Quand nous dormons, quand nous naissons, quand nous mourons, tu es toujours là et c'est toi qui nous conduis. Bénis les malades au milieu de nous, les découragés, les fatigués, ceux qui sont sans joie, ceux qui sont peut-être attristés par un départ d'un être cher, ceux qui ne voient plus le sens de la vie. Seigneur, soutiens-les, soutiens-nous, soutiens-moi, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et nous allons ouvrir ensemble. Alors pour parler des marches, je vais parler de pas mal de marches, mais je vais choisir un texte qui va ouvrir tout, un texte clé. Un psaume, le psaume 121. Justement, on l'appelle le psaume de la marche. On ne peut pas faire mieux. Le psaume du départ. Le psaume 121, je ne vais pas le commenter en lui-même, mais m'en servir d'appui pour marcher avec vous un peu plus loin, parce que cette année commence comme un voyage. Dieu seul sait si nous la finirons. Dieu seul sait ce qui se passera. Mais Dieu seul sait qu'il nous a préparé de bonnes choses. Alors ne soyez pas fatigués déjà. Nous commençons. Psaume 121, verset 1er. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Je le répète, nous sommes tous des voyageurs. Il y a des gens du voyage parmi nous? Oui, je vous ai repéré. Ils aiment bien s'appeler gens du voyage. Comme si nous étions toujours assis sur notre chaise ou dans notre lit, qu'on ne bouge pas. Mais vous savez, même si on ne se rend pas compte, quand on est dans le train, ça bouge. Mes amis, vous bougez, nous aussi, nous allons vers Dieu. Alors ça tombe bien parce que c'est l'épiphanie aujourd'hui. Le voyage des mages pour venir devant l'enfant Jésus. Et le Nouveau Testament commence avec Noël, vous le savez, où l'on voit Marie et Joseph qui font un voyage de Nazareth jusqu'à Bethléem pour le recensement avec Jésus dans le ventre de Marie. Premier voyage du Nouveau Testament. La Bible est un livre de marche, de voyage. Souvent, c'est vers Jérusalem, les voyages. Souvent, on monte vers Jérusalem. Livre de voyage aussi vers Jésus, l'homme qui marche, l'homme qui met en marche, qui vous remet en marche, si vous voulez, pour 2017. C'est notre condition humaine. On va de lieu en lieu, on bouge. Arthur Rimbaud, que j'ai apprécié dans ma jeunesse, pas pour ses qualités morales, mais pour la qualité de sa poésie, a fait ce beau poème, Ma Bohème, je m'en allais, les poings dans mes poches crevés, mon paletot devenait idéal, mon auberge était à la Grande Ourse, etc. C'est Arthur Rimbaud, l'homme d'un voyage, le fugueur, l'homme de la route. Mais c'est un peu notre condition. Dès le début, quand Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu a créé Adam et il l'a mis, il l'a transporté dans un jardin. Premier voyage en commun, un passager, Adam. Dieu pilote. Il transporte Adam dans un jardin. Et puis quand Adam et Ève ont commis la rupture avec Dieu, ils sont sortis de ce jardin, puis ils sont partis ailleurs. Et voilà, ça commence. Première migration. Premier exil, Adam et Ève qui quittent le paradis terrestre. Et depuis, dites-moi si j'ai tort ou raison, depuis, nous traversons la vie comme des voyageurs, comme des migrants. Nous traversons les pays, nous traversons l'espace, nous traversons des années à la recherche du paradis perdu. Nous sommes à la recherche du paradis perdu. Perdu, parce que ça va pas bien, mes amis. Il y a la belle maman, il y a le mari qui va pas bien, et la fille qui fait cela. On sent bien que tout bloque sur la terre. On voudrait retrouver l'harmonie du jardin perdu. Nostalgie. Nous rêvons d'un jardin ouvert, d'une maison ouverte. Nous rêvons d'une terre. Enfin, c'est Dieu qui met ça en nous. C'est Dieu qui nous dit il y a quelque chose d'autre pour toi. C'est un appel que Dieu nous lance. Premier appel pour la marche, Abraham, évidemment. Abraham, Dieu lui dit, lui qui était bien installé dans son pays en Irak, qui était tellement florissant à cette époque, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Littéralement, mot à mot, va vers toi. Quitte ton pays, mais pour aller vers toi, pour te construire. Parce que pour nous construire, il faut l'aide du Créateur, il faut l'aide de Dieu. On bâtit mal sans architecte. Rien que pour faire toutes ces décorations, on a fait appel à un architecte. Et pour construire la vie, vous ne croyez pas qu'il nous faut le grand architecte. Va vers toi pour te construire. Et Abraham commence sa grande marche. À 75 ans. Qui a parmi nous, levez pas la main, c'est pas la peine, qui a parmi nous 75 ans et plus? Il n'y a pas d'âge pour commencer la marche. Hein. Abraham commence. Une marche lente. La vie, c'est seconde après seconde. Hein. Faut pas bousculer tout. On ne voit pas bien les choses quand on va vite. On ne fait pas bien les choses. Mais parfois, nous essayons d'avoir des raccourcis. On essaie de prendre une voie TGV. Et les êtres humains, depuis le commencement, ils ont voulu prendre des raccourcis dans la vie. Exemple, la tour de Babel. Dieu leur a dit, je vous donne quelques années sur la terre, puis après, je vous prendrai chez moi. Eux ont dit, non, tout de suite, on va faire une tour. Puis on va aller tout de suite chez toi, pour te narguer. Ça s'est mal terminé. Hein. Depuis, on parle toutes les langues de la terre. Mais ça montre le désir de tout avoir immédiatement, sans passer par les cases, comme au jeu de loi. Il y a des cases à respecter. Dieu a conduit Abraham et nous et tous ses descendants sur une route longue, avec des apprentissages, des rencontres, des renoncements, des découvertes, avec des pleurs, des rires, de la confiance. Parce qu'on ne sait pas où on va. On est sur la terre et le chemin, on ne le connaît pas. Que mangerai-je demain? Je ne sais pas. Que ferai-je demain? Je ne sais pas. Personne ne peut le savoir ici. Donc, il nous apprend à marcher lentement dans la confiance. Nous sommes sur la terre en voyage. Il faut apprendre beaucoup de choses. On n'a que ce temps-là. On n'a pas d'autre temps. Il n'y a pas une vie bis. Il n'y a pas une deuxième vie sur terre. On n'a qu'une seule vie. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et Moïse et tous les autres, on les appelle des patriarches. Mais aussi les matriarches, il y avait des femmes célèbres, Rebecca, Sarah. Ils ont toujours dit qu'ils étaient sur la terre des étrangers et des voyageurs. Même quand ils sont arrivés en terre promise, où ils posent leurs bagages, ils se disent encore étrangers et voyageurs. Les voyageurs. Et l'apôtre Pierre, à la fin du Nouveau Testament, dit « Vous êtes des étrangers, des gens de passage et des voyageurs entre nous. » Ne le répétez pas trop. Hein. Il y a beaucoup d'étrangers en France, vous ne trouvez pas? Je trouve qu'il y en a pas mal quand même. Hein. On est tous des étrangers et on est tous en train de marcher vers un autre pays. Vous aimez les étrangers? Alors vous allez m'aimer, parce que moi aussi je viens d'un autre pays. Alors, il y a un sens dans tout ça. Il y a un sens dans le fait de commencer et puis d'aller vers Dieu. Il y a un sens, il y a une destinée, il y a une destination. Il y a un point de rencontre. Si on est là en train de marcher année après année, c'est qu'il y a au bout quelque chose qui nous attend. L'essentiel, me direz-vous, c'est de ne pas s'arrêter. Moi, je dis l'essentiel, non, c'est de ne pas se tromper de chemin. Parce qu'il y a le chemin large, oh, tout va bien. Et Jésus dit, il mène à la ruine. Puis il y a le chemin étroit, c'est pas facile, il faut resserrer un peu les coudes, il faut peiner un peu. Et dans ce chemin étroit, on se dit, mais enfin, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça? Mais ce chemin étroit, dit Jésus, c'est le chemin avec le Christ qui mène à la vie éternelle. Il ne faut pas se tromper de chemin. Il y a des chemins qui paraissent bloquants. On n'avance pas. Et pourtant, Dieu nous porte. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont commencé une grande marche, 40 ans de marche. Vous êtes prêts? 40 ans de marche? Ouh là là. Eh bien, pour guider Israël dans le désert, il n'y avait pas de flèches, il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait pas de repères, il n'y avait rien. Dieu a mis sur son peuple un nuage vertical. Étonnant. J'ai vu des nuages horizontaux, on en voit tous les jours, un nuage vertical. Et j'ai l'impression que ce nuage donnait de l'ombre. Et qu'il y avait un espace d'ombre sous le nuage. Et que quand on était sur ce tapis d'ombre, on était dans la bonne direction. Et je crois que la Bible, c'est comme un tapis de mots. Et tant qu'on est sur ce tapis de paroles, par exemple, voici le chemin, marchez-y. Sinon, vous iriez à droite, vous iriez à gauche, voici le chemin. Tant qu'on est sur ce tapis de paroles, de promesses, de mots, on est dans la bonne direction. Oui, vous allez me dire, vous êtes tranchant, pasteur, vous êtes coupant. Ben oui, pour moi, il n'y a qu'un chemin, c'est le chemin de la Bible. Parce que ce chemin-là, il vient de Dieu, c'est le chemin qui monte, c'est le chemin qui descend pour Dieu, qui monte pour nous. Le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, a connu un jour une dépression nerveuse. Vous avez connu peut-être ça. C'est terrible. On a l'impression que la vie se vide et qu'on n'a plus de ressort. Et à force de taper sur ce prophète Élie, qui était quand même un homme remarquable, fort, mais on ne peut pas taper sur les gens toujours, toujours, sans que les gens finissent par casser. Et Élie a cassé. Je vais même vous dire ce qu'il a dit. Je veux mourir. Ah. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je veux mourir. Et puis, après, il a révisé un petit peu son jugement et puis il a dit « Je voudrais aller en Israël, sur le mont Sinaï. » À l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de TGV, il y avait que nos pieds, c'est tout. Il a voulu faire ce voyage pour aller à l'endroit même où Dieu a posé ses pieds avec Moïse, des siècles avant. À l'endroit où Dieu est descendu, il a voulu revenir dans la matrice d'Israël, là où tout a commencé. Comme si il se disait, je voudrais un nouveau départ. Vous ne rêvez jamais de ça? Vous savez, l'histoire d'Élie, c'est notre histoire. Chacun de nous, un jour, a dit, il faut que je recommence une bonne année. Qui a pris des résolutions pour 2017? Moi, j'ai pris des résolutions, et vous? On en prend au départ. Ça dure en général 10 jours. Vous avez encore 2 jours. Bon. Pendant 10 jours, on se dit, je vais faire ceci, je ferai plus cela, je ne penserai plus comme ça, je suis tordu dans ma pensée. Bon, on prend des résolutions. Et le prophète Élie a dit, je vais aller sur le mont Sinaï et là, je vais vivre un nouveau départ. C'est un projet démesuré. Si vous me disiez aujourd'hui d'aller sur le mont Sinaï, je ne saurais pas s'il faut aller à droite, à gauche, c'est démesuré, c'est inaccessible, c'est un rêve. Je serais incapable d'aller sur le mont Sinaï, à moins que vous m'y portiez par un avion. Est-ce qu'on est capable de se mettre en route? Parce que ce n'est pas le tout de dire je vais aller sur le mont Sinaï, je vais revivre un départ. Il faut se lever, parfois on est découragé, on n'a même plus envie de se lever. Il y a le matin, certaines personnes ne peuvent plus se lever. Ils ne savent plus se lever. Regardez cet homme que Jésus a rencontré, qui était couché pendant 38 ans. Il ne pouvait plus se lever. « Veux-tu être guéri ?» lui dit Jésus. « Mais j'ai personne pour me lever. Prends ton lit et marche. » Mes amis, il y a des jours où on est incapable de se lever, incapable d'espérer, incapable de respirer, de vivre, de rêver d'autre chose. Élie est dans son désert, il veut mourir. Comment il va faire pour aller là-bas au mont Sinaï? Dieu lui a envoyé un ange. Je crois dans les anges. Je crois parce que c'est Dieu qui en parle, sinon j'y croirais pas, bien sûr. Mais comme je sais que Dieu ne ment jamais, parfois nous mentons, nous, pas vrai, Dieu ne ment jamais, donc je crois dans les anges. Et un ange est descendu et a donné à Élie, dites donc, des galettes cuites sur des pierres chauffées. Ça va? Vous voulez que je vous donne l'endroit, le restaurant? Des galettes cuites sur des pierres chauffées, des pierres brûlantes au soleil, hein, et puis une cruche d'eau fraîche. Dieu nous donne de quoi avancer dans la vie. Voilà. Il nous donne de quoi continuer le chemin, ne pas nous décourager, ne pas attendre la mort. Vous savez, il s'est couché sous un petit arbre. Il s'est pas mis sous un baobab, un tout petit arbre. Et là, il savait que le soleil allait taper et qu'il allait en mourir. Il est fou, cet Élie. Dieu lui donne de la force de continuer. Dieu ne donne pas seulement des ordres, il donne la force de les accomplir. Dieu ne donne pas seulement, Dieu ne nous attend pas seulement au bout du chemin, il nous accompagne jour après jour. Quand la maladie devient pesante, quand l'absence devient pesante, l'absence d'un mari, l'absence d'une femme, d'un enfant, Dieu nous donne des ressources, comme la multiplication des pains en chemin. La Bible ne nous cache pas que notre voyage sur la terre est dangereux. Enfin, s'il fallait éviter tous les dangers, on ne se lèverait pas le matin, hein. Aujourd'hui, c'est risque zéro. Il ne faut aucun risque. Vivre, c'est risqué. Se lever, c'est risqué. Manger, c'est risqué. Dormir, c'est risqué. Tout est risqué. Mais le Seigneur ne nous cache pas quand même que le voyage, il n'est pas facile. Vous le savez comme moi. Il ne nous cache pas qu'il y a des dangers. Le psaume 121, le danger d'une entorse, le danger d'avoir affaire à un lion sur le chemin, le danger de la lune qui tape très fort la nuit, le soleil qui tape très fort le jour, le danger bien d'avoir affaire aussi à des brigands, et des voyous, des menteurs, des voleurs. Tenez comme cet homme sur le chemin qui descend de Jérusalem vers Jéricho, il est tombé sur une bande de voyous qui l'ont battu, qui l'ont déchiré, qui ont pris toutes ses affaires, tout son argent, tout ce qu'il avait. Nous avons des voisins très gentils. Et le 2 janvier, ils sont rentrés chez eux, ils ont vu la maison sans dessus-dessous. Tout était par terre. Dans chaque armoire, il ne restait plus rien. Cambriolage. Il y en a toujours des voleurs, des pilleurs. Eh bien, cet homme, il a été laissé pour mort, il perdait son sang, il était sur la route, là. Et puis, des gens passaient, puis le regardaient, et puis continuaient. On n'a pas le temps de s'arrêter. Un bus a pris feu à Rennes, rue d'Entrain, il y a 2 ou 3 jours, et les gens, les voitures passaient sans s'arrêter. Il y avait une trentaine de personnes dans le bus, le bus commençait à prendre feu, les gens passaient sans s'arrêter. On est terrible quand même. On sent qu'il y a des gens qui, la vie, le chemin s'arrête, puis il y a des gens qui ne veulent pas changer leur chemin. On laisse les gens dans la rue mourir de froid, et nous, on continue la route. Eh bien, c'est un peu l'histoire de cet homme qui est descendu vers Jéricho. Ce n'était pas un bel endroit non plus. Il y a des chemins, il ne faut mieux pas y aller. Enfin, il est descendu et il s'est fait dévaliser, tout seul. Il est resté là. Puis, un étranger. Je vous dis qu'on est étrangers, tous. Un étranger, mais un vrai de vrai, là. Pas un étranger comme nous, comme moi. Un étranger vrai. Un Samaritain. Samaritains, on ne les aimait pas à cette époque. Eh bien, un Samaritain, en passant dans cet endroit, il a vu le blessé, il s'est arrêté, il l'a pris dans ses bras, il l'a soigné, il a pansé ses plaies. Et peut-être que le blessé devait dire, mais qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi vous me remettez en vie? Pourquoi vous me remettez en chemin? Et peut-être que le Samaritain qui s'est arrêté, peut-être qu'il a pu lui dire, je suis Jésus que tu cherches. Comme ton sauveur, Jésus que tu implores au fond de toi, le sauveur que tu implores, le secours que tu implores, la grâce que tu implores, c'est moi, c'est Jésus. Et le Samaritain l'a mis sur son cheval et il est parti le faire soigner. Tout ça, c'est nous. Les gens me disent, oh la Bible, je ne comprends rien. Vous êtes en chemin, vous tombez, quelqu'un ne vous ramasse pas, quelqu'un vous ramasse, c'est la vie. Quelqu'un vous encourage, quelqu'un vous démolit, quelqu'un vous enfonce, quelqu'un vous relève. Sur le chemin, on trouve de tout. La famille qui vous se fâche, des amis qui sont très charmants, des gens au loin qui vous font des magnifiques joies, qui vous donnent beaucoup de plaisir, des gens tout proches, dans la même maison, qui vous font du tort. Le chemin, il est compliqué. Et puis il y a Jésus, je termine, les marches de Jésus. Comme son peuple, comme moi, comme vous, le Seigneur connaît de grandes marches. Face au vent, face aux injures, face à la bêtise, face à la pesanteur, aux gens lourds, qui ont peut-être une taille très fine, mais il y en a qui pèsent des tonnes dans leur esprit. Bien, Jésus a connu de grandes marches. Il avait quelques semaines, son père et sa mère l'ont emmené en Égypte parce que Hérode, dans sa folie, il ne voulait que lui, il n'y avait que lui, il n'y avait qu'un seul roi. Il a fait tuer des enfants à Bethléem. Il a fait tuer des enfants. Alors, Marie et Joseph ont emmené l'enfant Jésus en Égypte. Premier voyage de Jésus. Et je crois que Jésus, il voit les enfants qui fuient les guerres, les enfants qui fuient leur famille peut-être, un père tyrannique. Le Seigneur voit tout ça. Il voit tout ce qui se fait sur la terre au niveau des enfants, parce qu'il a été lui-même un enfant, il aime les enfants. À 12 ans, vous savez l'histoire, hein, il a fait un faux bond. Il a pris un chemin de travers et puis il n'a pas fait le mal. Il est resté à Jérusalem 3 jours et ses parents ne le savaient pas. Un jour, je suis parti 2 heures sans prévenir mes parents. Le résultat, je ne vous le dis pas. À cette époque, ça voulait dire paf, paf, paf. Et voilà. Pouh, le traumatisme. Ça fait de moi quelqu'un qui se dit, ben, il ne faut pas que je quitte le bon chemin. C'est tout. Eh bien, Jésus, lui, il a quitté ses parents pendant 3 jours à la fête de Pâques. Il a commencé là une marche à part. Jésus n'a pas fait de grand voyage. Il n'est pas venu en Bretagne, par exemple, ni à l'île de la Réunion. Jésus, il n'est pas sorti de son trou. Il a fait quelques voyages simplement dans un petit territoire grand comme la moitié de l'Ille-et-Vilaine. C'est pas beaucoup. Mais là, il n'a pas arrêté de marcher. Tous les villages, tous les quartiers, toutes les rues ont vu passer Jésus, Jésus de Nazareth, qui laissait derrière lui un parfum de bonheur, un parfum de miséricorde, d'amour, un parfum qui rassurait. Il y avait dans ses paroles, il y avait dans son regard une paix qui remettait les gens en marche et qui se disait « ça vaut la peine de vivre, finalement ». Il marche sans arrêt, pendant 3 ans et demi. Il se met sur tous les chemins, il va partout. Il doit se lever tôt le matin, je sais qu'il se couche très tard le soir, et la nuit, parfois, on le croit là, puis il est là-haut, en train de prier. Jésus, il n'arrête pas. Il va sur les chemins pour rencontrer les âmes et les femmes. Il va sur tous les chemins pour nous rencontrer. Ces hommes qui jettent le filet dans la mer, là, vous avez vu ? Ils jettent le filet, ils tirent du poisson, et Jésus leur dit, laissez ça et suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose de mieux, parce que pour eux, c'était leur but, c'était leur idéal, c'était leur passion, la pêche, la pêche. Il y en a qui pensent leur temps à pêcher, vous savez, des retraités. La pêche. Et Jésus leur dit, mais laissez ça, vous êtes pris dans vos filets, là. Comme nous, aujourd'hui, on est pris dans l'argent, dans le jeu, dans de la violence. Laissez vos filets et suivez-moi. Et ils suivent Jésus, en marche. Un peu plus loin, il rencontre Bartimée qui, lui, il ne bouge pas. Il est assis au bord du chemin, il est KO, il est abandonné. Personne ne lui parle, personne ne le regarde. Il est aveugle, il n'a pas un sou, il est mendiant. Ce qui le retient à la vie, je pense, c'est une parole qu'on lui a dite. On lui a dit un jour, « Bartimée, c'est Jésus de Nazareth qui passe. » C'est Jésus de Nazareth qui passe, parce qu'il était aveugle. Mais qu'est-ce qui se passe là? Quel est ce bruit, ce charivari? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Et là, il a été guéri et il s'est mis à suivre le marcheur. À la suite de Jésus, on marche. Ça marche. Souvent, quand on se rend compte, on dit, alors ça marche? Oui, ça marche avec Jésus. Un jour, un jeune homme riche, qu'est-ce que vous préféreriez, être jeune ou riche? Lui, il a dit les deux, jeune et riche. Et riche et beau et en bonne santé. Il avait tout pour lui. Il interroge Jésus sur les commandements. Il interroge Jésus sur le ciel, comment aller au ciel, comme Martin Luther l'a dit il y a exactement 500 ans. Il interroge Jésus et Jésus lui répond, par un discours de théologie, il lui répond, suis-moi. Tu veux comprendre les commandements? Suis-moi. Tu veux aller au ciel? Suis-moi, suis-moi. Parce que le chemin de Jésus va vers son Père. Il monte. Jésus est toujours en ascension. Le suivre, c'est monter, c'est s'élever. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà notre pèlerinage. Il y a des gens qui font des pèlerinages, je ne dis pas de mal. J'aimerais bien aller à Jérusalem. Mais le véritable pèlerinage, ce n'est pas d'aller dans un lieu, c'est d'aller vers le Christ. Ça, c'est le pèlerinage. L'apôtre saint Paul disait, je cours pour saisir le Christ. Voilà, je cours pour saisir le Christ. Pas seulement marcher ou à marcher le Christ, il y a des gens qui aiment ça. Et, oh, j'aimerais ça aussi remarquer. Il y en a qui aiment se mettre là où il a dû prêcher, là où il s'est assis, là où il a dormi. Ce n'est pas un porte-bonheur. Hein. Mais ce n'est pas seulement marcher où il a marché, mais c'est marcher avec lui dans nos pensées. Que nos pensées soient comme il aime, comme il veut, avec lui, pour lui. Je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, on est allé, on a fait un voyage, on est allé à Jérusalem, on est allé visiter le tombeau du Christ. Ils ont été visiter un tombeau. Le problème, c'est que le tombeau, il est vide. Et que s'il y avait un ange qui était là, l'ange leur aurait dit certainement, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Qu'est-ce que vous faites là? Retournez chez vous, oust, en Bretagne. Mes amis, Jésus n'est plus dans son tombeau à visiter. Jésus, il est sur nos chemins, sur les chemins d'Emmaüs. Quand les gens sont tristes, ne comprennent pas la vie, voient tout à l'envers et font des erreurs et des bêtises, Jésus, il est là, il marche à nos côtés pour nous récupérer, pour nous reprendre en main, pour sécher nos larmes, pour guérir nos sentiments blessés. Il est sur nos chemins. Et je vous parle de mon expérience, mais Jésus est notre chemin, n'est-ce pas? Jésus a dit « Je suis le chemin ». Et le suivre, c'est avancer vraiment, c'est s'élever, c'est ressusciter, c'est se relever. Le suivre, c'est émerger. À chaque pas avec Jésus, on émerge, on ne reste pas sous l'eau. Notre cœur émerge. Oui, ça va mal, mais il est là. Oui, il y a des déceptions, mais il est là. Oui, je n'ai pas revu mon mari et ma femme, mais il est là. Il est là. Les évangiles, c'est, je conclue, c'est le chemin vers Jésus. Voilà. Voilà, l'évangile, c'est le chemin vers Jésus. Et l'évangile, il faut le reprendre. Je n'ai pas fait dans ma vie beaucoup de musique. J'ai fait un petit peu, mais enfin, presque rien. Et sur certaines partitions de musique, à la fin, en bas, c'est écrit da capo. Je ne sais pas si certains connaissent la musique. Da capo. Ça veut dire on recommence. On recommence. Et à la dernière page de l'évangile, je vais écrire ce soir da capo, on recommence, et toujours, parce que l'évangile, c'est le chemin pour aller vers Dieu. Oh, dites donc, vous connaissez le nouveau satellite Galiléo. Je suis content qu'on l'ait appelé de ce nom-là, parce que pauvre Galilée, il a eu bien des problèmes. Parfois on a raison, puis on a toujours tort. Enfin, Galiléo, c'est un satellite magnifique. Vous savez ce qu'il va nous faire, ce Galiléo? Il va nous diriger, on n'aura plus besoin de conduire sa voiture, la voiture se pilotera toute seule, le train se conduira tout seul, les camions rouleront tout seuls. Ça vous rassure ou pas? Ben c'est Galiléo, quoi. Au centimètre près. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais qui nous dirigera vers Dieu? Qui nous dirigera vers Dieu? Pas Galiléo. Le Christ lui-même, par sa parole. Amen. Et puis quand les chemins sont minés, je suis allé au Vietnam pendant 2 semaines, il y a déjà quelques années, mais peu de temps après la fin de la guerre du Vietnam, et je voulais faire un petit tour dans la campagne, on m'a dit, malheureux, n'y va pas, tout est miné. Tu vas dans un champ, paf, une bombe qui saute, une mine qui saute. Tu veux aller dans un bois, paf, ça saute. Reste là avec nous, ne bouge pas. Quel pays si beau, des gens si charmants, si agréables. Quel pays. Et parfois notre vie, elle est minée. on fait un pas, paf, ça saute. On va là, ça recommence. Le mal nous poursuit. Seigneur, que fais-tu ? J'aime le psaume 18. J'aime les psaumes, vous savez, que vous aussi, vous les aimez. Avec toi, Seigneur, je saute par-dessus la muraille. Voilà, pour continuer, il faut de l'aide. Seigneur, avec toi, tu me rends mes pieds comme les pieds, comme ceux des chamois. Vous avez déjà vu à la télévision des chamois ? Sur la montagne, avec des pics comme ça, le chamois, il saute comme s'il n'y avait rien du tout, il est agile. Tu rends mes pieds comme les pieds des biches ou des pieds des chamois. Tu me tiens debout sur les hauteurs. Parfois, on aurait le vertige sur la hauteur. Dieu nous tient debout. Oui, il y a des mines qui explosent, mais Dieu est avec nous. Chaque parole de Jésus, c'est comme une pierre où on peut mettre les pieds. C'est solide, on ne tombe pas. Même au fond de la rivière, quand on passe des moments, on n'y comprend plus rien, c'est le deuil, le chagrin, mais au fond de la rivière, au fond de la boue, il y a toujours des pierres. On met les pieds dessus et on se dit, ça c'est solide, ça c'est vrai. On avance ainsi, on avance. Je vais conclure en disant, Jésus un jour est entré dans une maison de... On l'appelle la maison de miséricorde, mais c'est une maison de misère. Une maison de misère. Bethesda. J'ai travaillé à l'hôpital quelques années et je peux vous dire, quand j'arrivais le matin, je trouvais que ces grandes salles avec une vingtaine de lits par salle, ces grandes salles qui sentaient évidemment tellement mauvais, où les gens étaient là avec parfois un ou deux morts, je me dis, mais quelle misère ! C'est pas si vieux, j'ai quand même pas 140 ans. Mes amis, eh bien, dans cette maison de misère et de miséricorde à Bethesda, Jésus voit un homme couché là, qui n'espère plus en rien, en personne, et Jésus lui dit un mot, je vous le laisse ce mot, lève-toi et marche, parce que l'être humain, il doit avancer. Ça vous va pour finir ? Lève-toi et marche. Vous savez que le mot bonheur, le mot heureux, dans le mot heureux, dans la langue de Jésus, il y a le mot marche. Oui, ça paraît étonnant, parce que pour certains, le mot bonheur, ça veut dire on reste couché. On reste couché, on ne bouge pas de la journée, on reste sur le sable. Bonheur, c'est marche. Il y a même un traducteur qui s'appelle M. Chouraki, il a traduit les béatitudes en disant, pas bienheureux les affligés, mais en marche les affligés. Mettez-vous en marche parce que le Dieu vous console. Surprenant, hein ? Comme si le Seigneur voulait nous dire, la vie, en fait, c'est toujours marcher. Le bonheur, c'est toujours avancer. Cette année, je vous souhaite de ne pas vous arrêter. Bon, je conclue en vous disant, je vous souhaite une bonne année. Amen. Vous ne dites pas amen ? Bon, ce n'est pas une parole de la Bible. Moi, je dis amen qu'aux paroles de la Bible, c'est vrai. Je vous souhaite de passer une belle année dans le Seigneur. Vous savez qu'il y a un homme qui a marché 365 années. Ça vous fait rêver ? 365 jours, c'est déjà pas mal. 365 ans, le prophète Enoch dans la Bible. Alors, belle année. Et puis, vous me permettez un dernier mot, vraiment le dernier. Moi, j'aime le psaume 122. Jusqu'à ce que vous soyez arrivés dans la Jérusalem d'en haut. Et le psaume dit, c'est là que nos pieds s'arrêtent. On ne s'arrête pas avant. Promis ? C'est là qu'on s'arrête. Psaume 122, dans la nouvelle Jérusalem, la ville d'en haut. Là, on pose nos bagages, on prendra un bon verre de limonade. On soufflera, nous serons arrivés chez le Seigneur. Et on retrouvera les autres. Amen. On sera en compagnie de beaucoup de monde. C'est beau ton projet, Seigneur. Garde-nous dans la marche. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour tes paroles, parce que c'est elles qui nous donnent une stimulation merveilleuse, un goût de continuer, de découvrir et peut-être même de toujours recommencer sans nous fatiguer, sans nous lasser. Parce que tu renouvelles nos forces, parce que tu ne nous laisses pas sur le bord du chemin, tu nous relèves comme le Samaritain a relevé le blessé. Seigneur, garde-nous dans ce voyage. Il y a des dangers, des découragements, il y a des choses difficiles à vivre, mais tu es avec nous. Nous t'en remercierons toujours, car sans toi, nous n'aurions pas pu commencer et surtout, nous n'aurions pas pu achever. Merci Seigneur pour ta parole et bénis cette année, tous ces mois, tout ce que nous allons vivre, les surprises, les belles choses, les choses difficiles. Garde-nous dans tous ces moments où il y aura des souffrances certainement, mais aussi des belles espérances, des temps lumineux. Garde-nous en toutes choses. Amen.